Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw pour le Go Home Show de Survivor Series War Games. Nous sommes le 21 novembre à Albany dans l'état de New York. Avec moi pour m'accompagner dans cet passage en revue de l'épisode phare de la maison mère, l'ami Giscal est avec moi, salut Giscal.
Salut Kerem, salut tout le monde. Ça y est, les War Games arrivent. On est chaud.
On est chaud, voilà, ça s'enchaîne. Depuis le pay-per-view en Arabie Saoudite maintenant, direction, c'est à Boston.
C'était hier.
Ouais. Ah oui, là c'est le jet lag, hein. T'as pas le temps de t'en remettre dans le bon fuseau horaire, que tu te retrouves dans le Massachusetts. Et à Boston. Une ville qui ne t'est pas inconnue, mon beau, jusqu'à là. Une terre brûlée.
Une terre brûlée.
Exactement. Le bastion d'un grand homme, Boston.
Absolument.
En tout cas, un grand homme, c'était à côté.
Qui n'a malheureusement pas fait son apparition ce soir, mais en effet, une terre qui a vu naître peut-être un des plus grands hommes que la terre ait porté à ce jour.
Non, c'est lui qui porte la terre. Il a porté la terre.
à tel point que maintenant, il a carrément, en effet, inversé la tendance. C'est lui qui porte la terre.
Ouais. Bon, on verra. Il y aura un petit clin d'œil ou deux qui sont glissés. Je ne sais pas si tu as noté, mais on verra un peu plus tard dans l'émission. Peut-être que je lis trop entre les lignes dans l'interlignage 1.5. Le show est ouvert par un Canadien et non pas par un Bostonien. Puisque Kevin Owens est là, il nous accueille, il veut nous faire comprendre que la raison pour laquelle il a rejoint l'équipe de Chimouche pour les War Games contre la Bloodline, ce n'est pas à cause de Sami Zayn, non. Alors, je me dis, c'est à cause de Sami Zayn. Non, c'est pas à cause de Sami Zayn qui dit, c'est pas à cause de Sami Zayn, c'est à cause de Roman Reigns. Ça fait 2 ans qu'il en a après la tête de la table. Souvenez-vous, il y a 2 ans, il s'était affronté dans une trilogie de matchs. Pour le pire et pour le meilleur, on se souvient tous de cette belle séquence de la menotte où il était resté accroché et il y avait des petits problèmes de clé. Hein. On avait dû faire appel à un serrurier en urgence, Giscal, pour délivrer.
Ça coûte très cher, hein. Ça on sait. Ouais, ils ne se bougent pas du coude, hein, les serruriers, quand c'est comme ça.
Hein. Ouais. Oh non, la moindre intervention imprévue, déjà en journée, ça coûte cher, mais alors en plus la nuit, il y a du déplacement.
Ah ouais, non,
Mais ça lui, tout simplement, je pense qu'il a mis 2 ans à s'en remettre financièrement, hein, Kevin Owens, suite à cette intervention du serrurier.
Du coup, surpris.
Et du coup, il revient, il vient récolter l'usufruit de cette trilogie de matchs qui n'avait pas vu le Canadien remporter la mise, simplement parce qu'à chaque fois il y avait la Bloodline qui à chaque fois venait s'en mêler, et donc il aurait bien mis un règne avant même que ce règne historique de Roman Reigns commence. Du coup, il a été invité par ses potos à Raw après avoir été invité à SmackDown par ses potos, l'ami KO, il a invité ses potos à venir à Raw, et bon Giscal, ce n'est pas John Cena, hein, qui est arrivé par les travées de l'arène d'Albany, mais bien les Brawling Brutes et Drew McIntyre. Écoute, on en parlait hors antenne de notre comptoir du catch spécial les 10 ans du Shield. Je crois que là, on a eu un petit clin d'œil, Giscal.
Là, oui. Alors, est-ce que c'était volontaire ou pas, je ne sais pas. En tout cas, un effet de scène qui ne pouvait pas rappeler autre chose que l'entrée du Shield. Alors, est-ce que c'était un taunt subtil pour Roman Reigns, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était assez fun, cette petite mise en scène, en effet, de l'arrivée de nos brutes et de leur honorerie brutie.
Ouais, donc, petite entrée façon The Shield, hein, par les escaliers au milieu de la foule. Sheamus, Drew McIntyre qui chauffe un peu la salle, Wargames qui arrive, et puis ils finissent par être interrompus par le Judgment Day et Rhea Ripley qui prend le micro, et elle nous ambiance un peu sur le match féminin, parce qu'il va aussi avoir, désolé Giscal, mais un Wargames féminin.
Écoute,
je sais, désolé,
faut bien.
Dominique dit d'ailleurs qu'il devrait retourner à SmackDown là, et qu'ils en placent une, qu'ils disent bonjour à son papa, son petit papounet. Dominique qui en profite toujours. Finn Balor qui commence à nous parler de sa feud avec AJ Styles. Rien à voir le mec. C'était un peu chelou parce qu'il parlait à AJ Styles. Il avait le micro, il fait « Hey, toi, AJ Styles !» Tout en continuant de regarder les Brawling Brutes, c'est Drew McIntyre et Kevin Owens. Il aurait fallu regarder la caméra ou je sais pas, autre chose, toi, peut-être. C'était un petit peu bizarre. Donc tout le monde se chauffe. Sheamus, il démarre Finn. Il l'appelle Plastic Paddy. Alors ça, j'ai pas forcément compris. Les insultes irlandaises.
Typiquement.
D'ailleurs, Sheamus, écoute-moi, Jessica, je suis désolé, mais je comprenais pas tout ce qu'il disait. Hein.
Je trouve que depuis qu'il a fait son groupe avec les Brutes là, il force un peu son accent. Hein. Tu sens quand même que c'est parfois c'est difficile. Je suis d'accord.
Ouais. Attends, d'habitude on le comprend mieux que ça là. C'est chelou.
Il force un peu le trait. Je pense que ça doit faire partie du truc parce que bon voilà, c'est la petite faction britannique et tout. Donc
ils
en jouent.
Ouais. Et d'ailleurs, il veut la baston tout de suite. Hein. Il veut la baston tout de suite, le Sheamus. Le Judgment Day versus Brawling Brute, ce serait pas mal. Et d'ailleurs, ils acceptent le Judgment Day, ils sont chauds aussi. Et KO se mettra aux commentaires pour le match qui va donc opposer les deux équipes. Un match plutôt bien rythmé, hein, bon Giscal, qui va voir la victoire des Brawling Brutes. À un moment donné, le Judgment Day, ils ont voulu se barrer hein, du match. Et puis, ouais. Mais il y avait Zé aussi qui était là, moi, qui fait pop-pop avec Michine. Michine qui a dit salut, c'est moi. Alors d'ailleurs, Michine, visiblement, ça commence à devenir son vrai nom, Giscard, là.
Oui, ça me fait un peu peur, ça. Mais oui.
Ouais. C'est Mia, Michine, Yim.
Oui, c'est ça. Ouais. Non, en effet, j'ai l'impression. Puis ça y est, elle a son petit merchandising, elle a sa tenue, son bonnet, tout, là.
Ouais, c'est la street cred, quoi. C'est la fille de la street, hein, donc... Et donc, ça permet tout simplement à Brawling Brutes de bien dominer ensuite les affaires. Dominique, d'ailleurs, c'est l'homme du match. Hein. Parce qu'il s'est fait bizuter pour la 50e fois. Et cette fois-ci, le bizutage, c'est le dernier level du bizutage. C'est le face-à-face avec Sheamus.
Oui.
Il s'est fait bouffer. Il s'est fait détruire, tout simplement. Et le bro kick, 1, 2, 3, victoire des Brawling Brutes, et juste après le combat, Priest et Balor qui montent sur le ring pour attaquer Sheamus. Sheamus qui envoie Priest hors du ring. Luke Gallows qui arrive, qui met des gros coups de pied. Un énorme, alors un coup de pied retourné à Damien Priest. Oui. Oh la vache, le mec qui fait 2m10, ça a claqué. Kevin Owens qui rentre sur le ring, qui fait le stunner sur Finn Balor. Un feel-good moment pour les gentils là, à l'ancienne, hein, classique.
C'est ça, on avait presque l'impression d'être face à un main event un peu. Hein. C'était... Oh, oui. Il y avait ambiance main event, mais c'était l'opener. Donc c'est vrai que ça partait un peu sur les chapeaux de roue. Hein. Moi j'étais globalement très enthousiasmé par tout cet enchaînement. Beaucoup très très efficace en fait hein, cet enchaînement. J'ai trouvé de promo plus petit taunt, plus booking de match, plus post match et tout. Là on a eu j'imagine ce qui devait être l'équivalent d'une grosse demi-heure d'entrée d'émission qui a coché tout plein de cases, hein, qui a buildé deux matchs pour les Survivor Series, qui nous a divertis au micro et entre les cordes. Donc globalement, j'ai trouvé que c'était très efficace. Je reviendrai sur... J'ai bien apprécié la promo de Kevin Owens avant que ses amis d'un soir arrivent dans l'arène. Et justement, c'est un peu là-dessus que j'ai envie de m'arrêter. On sentait que ça faisait vraiment ami d'un soir parce que cette promo, elle était assez intéressante dans le sens où on trouvait que il y a un vrai décalage entre Kevin Owens et le reste du groupe. Tu sens que Kevin Owens, il roule un peu pour lui quand même, comme ça a toujours été un peu le cas à la WWE. Hein, ça reste un loup solitaire, hormis ses interactions avec Sami Zayn, qu'il a eu beau rôle de rappeler.
C'est-à-dire que Kevin Owens, il a été plusieurs fois le meilleur ami de plusieurs catcheurs, mais ça s'est jamais vraiment bien terminé.
Très bien terminé. Et donc, c'est intéressant cette promo, parce que voilà, hein, autant, bon bah, Sheamus et ses amis Rage the Fridge et Butch, là, bon bah voilà, ils en veulent à la Bloodline parce qu'il y a eu les Usos qui ont mis sur le carreau Sheamus et qui ont cherché des noises au Brawling Bros depuis bien longtemps. Et donc Drew McIntyre, d'une certaine manière, Ils ont réussi à le racoler, rattraper un petit peu dans tout ça parce que c'était le témoin. Ils en avaient parlé. C'était le témoin de mariage de Seamus. Ils sont potes depuis toujours, depuis 20 ans. Quand il faut aller à la guerre, il emmène son copain Drew McIntyre avec lui. Donc il y avait un côté assez organique pour que, malgré le fait qu'il n'ait pas toutes les motivations du monde, qu'il les rejoigne. Mais après, t'as Kevin Owens qui joue vraiment le rôle un peu de plus un, un petit peu d'électron libre autour de ça, et cette promo l'a bien posé les bases, j'ai trouvé, parce que il a exposé ses motivations. Et en fait, ces motivations, elles sont pas du tout de donner une leçon à la Bloodline. Hein. Ces motivations, elles sont très personnelles. Hein. Il veut se remettre dans la course pour le titre. Il veut aller taper Roman Reigns. Et puis éventuellement, autre objectif bonus à côté, s'il peut donner une petite leçon à Sami Zayn, ok, mais en tout cas, ce sera pas ça son point focal. Mais donc, quoi qu'il arrive, que cet objectif primaire ou secondaire soit le bon, c'est des motivations qui sont très personnelles. Et donc, ça, je trouve que ça pose un peu les bases aussi de ce que ça va être, peut-être un des angles de l'histoire de ce Wargame samedi prochain. C'est en face, les Hills, c'est une stable, hein, ils sont indissociables, c'est la Bloodline, ils sont comme les cinq doigts d'une main, c'est une vraie équipe. Et à côté de ça, on a ce Kevin Owens qui prend ses distances avec cette promo, qui remet l'esprit de tout le monde, dire faut pas l'oublier, avec ce côté je m'en fous, mais en même temps j'en parle, donc je m'en fous pas complètement, parce que le fait de le mentionner, c'est que ça le travaille quand même. Je trouvais que c'était une belle façon de poser les bases d'un point de vue scénaristique, de pas, ce qu'on dit souvent, ce que je reproche, de pas tout nous laisser supposer, de se dire, parce que tu vois, on le devine, on n'est pas con, hein, on sait que Sami Zayn et Kevin Owens, ils ont un passé, on sait que Kevin Owens et Roman Reigns, ils ont évidemment un passé, et que Kevin Owens, c'est un prize fighter solitaire qui pense qu'à sa gueule et tout. Mais voilà, le fait de le romancer un petit peu dans une promo et de poser les bases ici dans un go-home show, je trouve que c'est quelque chose de très malin. Et puis après, il a mené sa barque un petit peu aux commentaires, il a fait le côté un petit peu goguenard, mais en même temps qui était très distant, parce que tu vois, Drew McIntyre, il était aux abords du ring, très attentif à ce qui se passait, il essayait de s'assurer qu'il n'y ait pas le bordel, avec Kevin Owens, les pieds sur la table, en train de commenter, en train de faire des blagues, peinard et tout. Voilà, je trouvais que l'enchaînement de tout ça était assez cool. Et puis, on a mixé là-dedans le Judgment Day, Ezzy aussi, ce qui était une façon très intelligente aussi de mettre un petit peu de spotlight sur cette histoire. Et donc, j'ai trouvé que tout ça était très efficace, ouais.
Comment tu as trouvé, Drew McIntyre justement moi, je trouve... C'est marrant parce que je trouve que Drew McIntyre, il est... c'est comme si... Enfin, il avait la... Tu vois, il prend du plaisir, il a la banane, il est avec ses potos. J'ai l'impression que...
Il a un peu perdu le feu.
Oui, c'est ça. Il a perdu le feu, mais positivement. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, un peu comme Kevin Owens à une certaine époque, au moment où il avait renégocié son... ou devait re-signer son contrat, c'est le mec très focus autour du titre. Tu sentais que ça allait travailler, toi. Et là, t'as l'impression que, que les gars, ils savent, ok, de toute façon, c'est plein. Toucher le titre, c'est quasiment impossible. Voilà. Je suis un vétéran maintenant, j'en profite, je suis relax. Tu sens ce côté-là un petit peu. Toi, ça lâche des vannes, ça improvise un peu. T'as un moment, il était. Il se fait un peu charrier par Rhea Ripley qui lui dit de la fermer. Toi, il rigole, il est pas trop.
Mais clairement, il est un petit peu plus. Alors. Pour le meilleur et pour le pire parfois, parce que c'est vrai que moi, Drew McIntyre, il y a eu des moments un petit peu plus tôt dans l'année où il m'a exaspéré un peu. C'est vrai que cette fin d'émission à Clash at the Castle à Cardiff est restée un petit peu en travers de la gorge de pas mal de monde. Il y a eu pour moi cette fin de feud avec Karrion Kross un petit peu cataclysmique aussi il y a quelques semaines. Avec ce steel cage match où j'avais trouvé ça, pour moi c'était presque un des pires matchs de l'année, ne serait-ce que pour ça, parce que je trouvais incroyable, hallucinant que une rivalité qui avait été basée sur deux énormes mastocs qui voulaient limite se tuer sur le parking à s'envoyer des portières de bagnole dans la tronche puisse se terminer sur une scène où t'as le gentil qui est tout joie d'avoir réussi à gagner un steel cage match en s'échappant alors que t'as sa némésis qui est à littéralement 1 mètre de lui. Enfin, c'était une scène de cartoon, quoi. C'était vraiment, c'était n'importe quoi. Donc, pour le meilleur et pour le pire, en effet, parce que ce Drew McIntyre un peu plus cool, un peu moins le feu sacré, bagarreur et tout, je suis pas super fan. Par contre, là, pour les biens de l'histoire, pour les biens de cette histoire-là en particulier, j'ai trouvé que c'était plutôt habile parce que ça se complète bien avec le personnage de Kevin Owens qui, lui, au contraire, est en, entre guillemets, en train de d'opérer le virage inverse, hein, c'est-à-dire que fini la rigolade côté Kevin Owens, et lui, il semble de retour aux affaires sérieuses depuis un petit moment. Et donc ce contraste entre les deux, on va dire, sert un petit peu plus l'histoire, parce que ça aurait été sans doute un peu trop bancal, je pense, et un peu plus difficile à construire d'avoir finalement les Brawling Brutes et deux individualités très fortes. Avec leur propre poursuite de leur bonheur respectif, en quelque sorte, hein, qui coexistent à côté. Enfin, je pense que ça aurait un peu brouillé l'histoire qu'ils cherchent à raconter, alors que là, le fait de l'avoir mis sous couvert un peu de sourire sympa et tout machin, de l'avoir rapproché de Sheamus en mode on est les best buddies, on est super copains et tout, machin, ça permet justement de garder ce flou scénaristique sur Kevin Owens qui je pense sera un angle intéressant pour la suite. Donc j'ai envie de dire, voilà, là ça me dérange pas trop, mais en effet, ouais, si ta question englobait les mois passés, ouais, je suis pas forcément très très fan de ce nouveau Drew McIntyre. Mais...
écoute, là en tout cas, il est avec ses poteaux pour aller démonter, ouais, décrocher des têtes ce week-end, et ça a l'air de lui plaire, il a le sourire, donc on va pas gâcher le plaisir d'un homme, tout simplement, hein. Et puis chacun son tour, écoute, chacun son tour. Là, c'est au tour du Canadien d'aller un petit peu chatouiller la barbichette de Roman Reigns. Johnny Gargano, hein, il est censé avoir un match ce soir, mon bon Giscal. Il est interviewé backstage par Katie Kelly, donc il y a un rematch ce soir entre les deux. Des nouvelles de Dexter Lumis, il n'y a pas de souci, ils ont un commun accord, lui et Dexter, chacun se s'occupe de ses affaires, et du coup Dexter ne devrait pas intervenir ce soir pendant le match face au Miz. La musique du Miz, justement, qui retentit, mais ça va pas le Miz, il est blessé. Lui qui n'est jamais blessé, là il est blessé en faisant un TikTok, pendant une vidéo de TikTok. Il s'est coupé la main sur un cactus. Il s'est planté la main sur un cactus, il a tapé dans un cactus et il s'est planté la main dans un cactus. Donc voilà, il est blessé. Le pauvre homme, voilà, il a des terminaisons nerveuses qui sont endommagées. Mais vu que Johnny Wrestling veut Wesley, hein, vu que Johnny Catch veut catcher, eh bien le Miz, lui, il lui a trouvé un petit remplaçant. Et quand je dis petit remplaçant, en fait, Giscal, c'est un géant remplaçant.
Ah bah oui,
il est géant. Ah ouais, il est géant, il est nigérian, il est pas vert, c'est Omos. Et Omos, il est immense. Et Omos va donc affronter Johnny Gargano.
Il est vraiment immense quand même, n'empêche, parce que je sais qu'il joue avec la caméra, mais quand il est passé à côté du Miz, c'est vrai que je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il est grand, c'est incroyable.
Mec, je sais pas, il fait quoi, 2m20, hein, un truc comme ça, non, mais,
C'est habilement, il y a une légère contre-plongée qui fait que t'as l'impression qu'il faisait vraiment deux fois le Miz. C'était hallucinant.
un match que j'ai trouvé plutôt pas mal, que je vais mettre dans le top 3. Je me lance dans le top 3 des matchs de Moss.
Eh bien, alors, je suis complètement d'accord.
Donc je le mets dans le match, top 3 des matchs de Moss, parce que Moss, face à Johnny, il l'écrase d'un tel un moustique. Mais Moss, il s'est retrouvé un peu comme un con, parce que il s'est cogné la tête contre le turnbuckle, et ça l'a sonné. Et là, Gargano, il lui a mis des gros coups de pied dans la tête. Et là, je me suis dit, mais oui. Un géant de 2m20 ne devrait jamais rien vendre, sauf la tête. En fait, parce que la tête, t'as beau faire 2m20, ta tête c'est la même, tu te prends un coup de pied dans la tête, tu fais 2m20, t'as ta commotion cérébrale comme tout le monde. Hein. Et là, il s'est fait enchaîner 1, 2, 3 coups de pied dans la tronche, et du coup, ça n'allait plus trop. Mais il a quand même réussi à en profiter pour soulever Gargano, qui essaie de faire une cabriole, là, en pointant du doigt en direction de Papy, si celle-ci elle est pour toi. Mais il s'est fait choper, et puis il lui a balancé Shock Slam, et puis voilà, 1, 2, 3, hop, victoire. Domos, alors, toi aussi, tu le mets dans le top 3, là, ce match, Domos?
Ouais, j'ai presque envie de dire que je le mettrais aussi dans le top 3 des matchs de Johnny Gargano.
Oui, tant qu'à faire, allez, allez.
Alors, en tout cas, je pense que c'est rentré dans le top 3 des matchs de Johnny Gargano pour Papy. Sachant que c'est peut-être la première entrée en fait dans le top 3, il n'y en avait pas d'autres.
Je suis pas sûr qu'il y en aura vraiment 3 un jour dans ce top 3.
Est-ce qu'il y en aura 3 dans le top 3? Je sais pas. Enfin, bon, si, il se fait pourrir toutes les semaines, ça peut vite remplir le top 3.
Ah oui, 3 matchs face à Homo, c'est
bon. Hop là, c'est réglé. Non, écoute, oui, je suis assez d'accord, c'est marrant. Bah, je me demandais si t'allais en parler, mais j'ai vraiment eu le même feeling. J'ai trouvé que ce squash glorifié en quelque sorte était très bien fait. Mais peut-être aussi tu as cette impression avec Homos, c'est parce que jusqu'ici, alors je me souviens pas de tous les matchs de Homos depuis qu'il est arrivé, mais globalement, soit il avait eu des rivalités où on soufflait un peu le chaud et le froid avec lui et on n'y allait pas franchement, ou alors il avait des squash contre des régionaux de l'étape où il en prenait 3-4, il les empilait et c'était pas très 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 fun à regarder. Et là c'était le premier vrai, un petit peu je trouve, David contre Goliath classique qu'on lui bookait à la WWE. Alors peut-être nos auditeurs nous contrediront, j'avais pas forcément souvenir de cette configuration-là, avec un vrai catcher quand même si on n'apprécie pas trop Johnny Gargano, avec un vrai vrai catcher en face de lui. Et donc c'était pas mal.
Il n'a pas eu un match contre Gable ou un truc du genre. Je me souviens d'un match contre un petit, comme ça, où justement ils avaient joué une bonne histoire.
Sans doute, t'as peut-être raison. Ouais, bon, en tout cas, ça doit remonter un petit peu.
Oui.
Mais bon, en tout cas, ouais, voilà, c'était super efficace, c'était bien fichu, comme tu l'as dit. Bah, c'était un David contre Goliath bien foutu, avec les coups à la tête qui font flancher le géant, mais globalement, un Homos qui apparaît très très fort, et un Gargano qui, malgré toute la bonne volonté du monde, ne peut pas y arriver. Donc c'est le genre de match qui est plutôt bien foutu parce que ça n'affaiblit personne. Alors évidemment, ça n'affaiblit pas Homos, hein, qui a gagné en deux temps trois mouvements de manière très dominante, mais qui a quand même montré que, bah voilà, comme tout géant qu'il est, il a des points faibles, ça n'aura pas suffi. Et Gargano qui, bah voilà, c'était juste trop gros, ils sont pas dans la même... il faudrait un concours de circonstances incroyable pour qu'il arrive à battre Homos, et donc c'était plutôt bien fait, et puis ça arrivait en plus à l'issue de cette petite passe d'armes au micro que j'ai trouvé très fun. Voilà, c'est typiquement le Miz, là on fait semblant d'être blessé, on a avec une histoire complètement rocamboleste, ridicule au possible, mais parfaitement incarnée, et regarde, je t'ai trouvé un remplaçant, et donc voilà, ça marche bien, c'est très classique, très efficace, mais je trouve que c'était un développement dans leur histoire qui était bienvenu, parce que ces trucs à la enquête exclusive et tout, là, moi, ça me saoulait un petit peu, donc je voulais un petit peu de castagne, et cette semaine, pour un go-home show, justement, qu'il fallait pas trop prendre la tête le public avec des trucs compliqués dont on n'aura rien à foutre samedi, allez, un bon gros squash, et on se reparlera la semaine prochaine, parce que là, maintenant, Johnny Gargano commence à avoir des raisons d'être un petit peu impliqué dans cette histoire, contrairement à aujourd'hui où, en fait, à part dire ce qu'il a dit à Katy Kelly, là, dire bah oui, en fait, moi je veux que le Miz fasse the right thing, hein, on sent, ouais, c'est un peu léger. Donc là, par contre, il a peut-être un petit sentiment de vengeance qui va se développer.
Oui, voilà, ça y est, enfin, une petite graine est plantée, voilà, et on a eu droit tout simplement à. Un match référence pour le géant nigérian, voilà, 2m20, et déjà dans vos cœurs, dans vos petits cœurs de fans de catch, Homos a trouvé sa place. Seth Rollins en interview avec Corey Graves qui lui demande alors comment ça va Monsieur Rollins.
Comment ça va?
Il dit bah écoute, j'étais attaqué par Lashley, par Theory, mais bon, ça va quoi. Hein, tout le monde en a après moi, mais bon, c'est normal, hein, c'est le champion US. Et qu'il veut régler ses comptes. C'est pour ça que c'est lui qui a demandé le match, puisque, mon bon Giscal, une triple frite va se tenir ce week-end entre oui. Seth Rollins, qui va défendre son titre US, contre Bobby Lashley et Austin Theory. Deux choses. L'une, la première, Bobby Lashley est complètement fou. Donc en fait, on ne bat pas Bobby Lashley, on survit à Bobby Lashley. Voilà. Donc ça, il le sait. Austin Theory, il a tout perdu.
Lui, il est complètement con.
Donc il est dangereux, mais il est con. Il lui dit c'est le mec le plus stupide de la planète Terre. D'accord? mais il rattrape plutôt bien le coup, puisqu'il dit que c'est pas parce qu'il a caché son truc complètement, qu'il a perdu sa mallette, mais c'est que il a attaqué et la semaine dernière, et que par derrière, et que du coup, ça a énervé hein, cette Rowling, sous-entendu, et que cette théorie, tout simplement, veut utiliser cette Rowling pour se faire un nom, comme on dit. On met une petite dédicace à Cody Rhodes, mon beau Giscard. Hein Cody Rhodes,
bien sûr.
On se rappelle Cody Rhodes à notre bon souvenir par cette Rollins. Il dit bah, si tu veux savoir comment ça va, bah, t'appelles Cody Rhodes. Il dira ce qui se passe quand on m'attaque par derrière, qu'on en a après moi. Et puis à Survivor Series, ce sera du war. Ce sera pas un war game, mais ce sera quand même la guerre, mon beau Giscard. Ce sera quand même la guerre.
Ce sera la guerre, ouais, ouais, ouais. Écoute, ouais. Super interview, j'ai trouvé, c'était sympa à suivre, plein de petites choses dedans. Bah, il boucle le match à lui tout seul, hein, grosso modo. Hein. Il fait le service, il fait le booking, le service après-vente, il fait tout. Bah ouais, triple threat plus ou moins attendu, même si affiche osé quand même, hein, parce qu'on a trois. On a trois sacrés clients, c'est quand même un gros match. Hein. On a un théorie tout feu tout flamme qui est en train de reprendre du poil de la bête et qu'on voit difficilement, on voit difficilement son momentum se stopper aussi vite. On a un Bobby Lashley qui, à juste titre, par Seth Rollins, est vendu comme un fou furieux qu'on ne bat pas, mais auquel on survit. J'ai trouvé que la formule était vraiment, vraiment pas mal pour crédibiliser la menace. C'était plutôt bien fait. Et puis on a ce Seth Rollins qui de toute façon est intouchable, on va dire. Il est tellement, tellement fort. Et puis qui en plus a l'air d'un. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'ils font avec lui. C'est un positionnement de personnage qui est assez inédit, je trouve. Hein, ce mi-heel roublard qui s'en sort à chaque fois avec la baraka d'un poil de cul, vraiment, par le petit trou de la serrure à chaque fois, t'as l'impression qu'il est un peu miraculé. Et en même temps, il est aussi extrêmement... déjà c'est lui qui demande le match, c'est lui qui propose des open challenge, c'est un champion combatif qui veut mettre en valeur la ceinture, qui travaille pour Monday Night Raw en quelque sorte, hein, pour le show. Donc c'est un champion heel un peu particulier qui nous sert en ce moment, Seth Rollins, qui est très très fun à suivre et qui est très original, je trouve. Donc tout ça condensé dans une petite interview avec la petite pique pour Cody Rhodes qui va bien. Voilà un petit segment parfait pour nous vendre le triple threat de samedi, que j'ai bien hâte de voir parce que même si je pense pas qu'il soit très dur à pronostiquer, je suis assez curieux de voir comment ils vont raconter tout ça et faire sortir tout le monde grandi, parce que je pense que c'est aussi un peu l'objectif. Il n'y a pas vraiment de faire-valoir dans ce match, donc c'est ça qui va être intéressant.
Théorie, justement, petite interview backstage juste après, hein, c'est des interviews un peu interposées, dit voilà, qu'il n'est pas compris. C'est un incompris aussi, une théorie, mon bon Giscard. Toi-même, le comprends-tu vraiment? C'est Austin qui est jeune et ambitieux et qui est déjà passé, qui a déjà tellement connu tant de choses. Il a touché le fond, mais voilà, il n'est plus un enfant. Il est un nouvel homme, jusqu'à les. Il va falloir le prendre au sérieux. Hein. Il va renvoyer à la maison tous ceux qui ne l'ont pas respecté. Et d'ailleurs, la preuve ce soir face à Mustapha Ali dans ce que je sais déjà être l'un de tes matchs préférés de la soirée, puisque Mustapha Ali arrive et il est blessé, enrubanné. Ça va pas du tout. Il est passé 15 fois à l'infirmerie après avoir été malmené par Bobby Lashley, donc il va vendre cette blessure au long du match, mais ça va pas l'empêcher quand même de tenir bon. Il place des 450 splash, il tourne dans tous les sens. Théorie, il lui place quand même, ne se laisse pas faire. Et à la fin, place son 8-town down pour la victoire. Victoire de Austin Theory. Quand il s'en est suivi de Bobby Lashley qui est apparu sur l'écran et qui a dit à Theory, bouge pas, mec, j'arrive. Donc pendant la pub, il a l'air rejoint de théorie, c'est assez bizarre, mais bon. Et ça s'envoie des insultes à la tronche, et puis ça se termine en bagarre. Il se prend un coup de chaise, ça se court après, et puis finalement, Bobby Lashley se défoule sur le pauvre Ali dans la gorilla position, qui passait par là, et parlons, oui, bonjour monsieur, et qui se fait démonter par Bobby Lashley, et je crois savoir que tu as un petit souci avec la durée de ce match, mon bon Giscard.
Ouais, la durée, le scénario, un peu tout, là même la raison d'être un peu de ce match. J'ai pas trop apprécié. J'ai pas apprécié en fait la façon qu'a eu Austin Theory de galérer un petit peu contre Mustafa Ali. Autant la semaine dernière, on était revenu sur le fait que Mustafa Ali s'était fait déboîter par Bobby Lashley, mais alors à un niveau rarement vu. Autant là, je l'ai trouvé, on lui en a sans doute donné un petit peu trop, parce que justement, en fait, c'est justement par rapport à ce à quoi je fais mention la semaine dernière, j'apprécierais, on va dire, que la WWE considère qu'on a une mémoire, qui s'étend à au-delà de 3-4 jours. Et qu'on se souvient de ce qui s'est passé la semaine dernière, et qu'on se souvient quand même que Mustafa Ali, c'est un mec qui se fait littéralement rouler dessus par tout le monde en ce moment, et donc je ne vois pas l'intérêt, après l'avoir fait paraître si faible pendant plusieurs semaines, de le voir pendant 5 minutes batailler, avoir de l'offensive, voire des near falls, sur un Austin Theory qui est censé être... incroyablement focus et de retour au top niveau, tout machin. J'ai trouvé ce match contre-productif. Et puis au-delà de ça, je sais pas. Alors peut-être, je sais pas, j'ai pas le roster de la WWE sous les yeux, mais il y a un moment, ils ont pas d'autres carpettes face à nous servir pour. Je sais pas, je vois pas, au bout d'un moment, je vois pas trop l'intérêt de voir Ali se faire débranler toutes les semaines comme ça. Donc, j'ai pas trop, j'ai pas trouvé que c'était une utilisation fantastique du temps de théorie cette semaine, ce match.
Ouais, je suis assez d'accord que le match aurait probablement dû être un petit peu écourté et Austin Theory n'aurait pas dû autant galérer. Ça m'a pas énormément choqué, mais une fois de plus, ouais, on a donné un peu trop, peut-être trop d'offensive à Ali alors que le mec est. Là, c'est un outil, là. Il doit servir justement. Il s'est fait rouler dessus la semaine dernière par Bobby Lashley. C'est un peu étrange de le revoir aussi rapidement.
Il est ultra blessé, quoi. Donc, c'est vrai que.
Oui, c'est assez bizarre. Le mec, finalement. Enfin, on va le revoir la semaine prochaine. Il va revenir encore. Il va redemander sa part, toi. Je sais pas. Peut-être qu'il aime ça. Hein. Il aime ça.
Il aime ça. La semaine prochaine, il va avoir des béquilles et puis il va quand même catcher.
Je sais pas. Il va quand même te sortir 4 near fall, se relever d'un
finisher.
Se relever d'un finisher. Ouais, non, c'est un petit peu étrange. Là, c'est plus Bobby Lashley qu'on a mis en avant que vraiment. Même s'il nous a offert des belles promos, hein, ça là-dessus, notre ami Austin Theory, là, il est très
oui,
très.
Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Hein.
Ouais, faut que ça se traduise entre les cordes. Le poker, ça continue, totalement illégal ce qui se passe là dans les backstage de la WWE, JBL et Baron Corbin. Voilà, ça trash talk, évidemment, Albany. Drew McIntyre qui passait par là, bah, tu vois, Drew McIntyre, il est vraiment relax ce mec. Je passais par là, ça sentait le whisky, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et JBL, voilà, dit rien à foutre là, de l'Écosse. Voilà, ils sont même pas à la Coupe du Monde. Tu savais, toi, Giscard, qu'ils n'étaient pas à la Coupe du Monde. Toi, tu
sûr, bien sûr. Suis.
Évidemment. Sinon, c'est un des outsiders qui s'est déjà fait virer avant même d'être. N'a même pas été qualifié. C'est dommage. Eux, ils auraient battu le Japon, je pense, hein, les Écossais. Eux, ils ne seraient pas fait rouler dessus par les Japonais.
Non.
Les Japonais, on en parlera pas très longtemps. JBL, qui a dit d'ailleurs, qui ambiance Corbin face à Drew McIntyre. Et puis Drew qui dit ouais, écoute, je respecte les anciens. Et puis, paf, il met un gros coup de poing sans prévenir en sucker punch là, sur Baron Corbin. Donc, il est cool, relax, mais putain, faut se méfier. Hein. L'Écossais, là, c'était pas.
Ça peut partir.
Ça part comme ça, sans prévenir. Et juste après, on a eu un match aussi, un match que tu as beaucoup aimé. C'était un petit peu plus tard, je sais plus c'est quand. Non, c'est oula, ouais, j'ai sauté des trucs, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'y reviendrai, vous inquiétez pas. Baron Corbin affrontait Drew McIntyre. Drew McIntyre, Baron Corbin accompagné de JBL. Alors, c'est peut-être pour ça aussi la clé de ce qui s'est passé de ton tourment, mon beau Giscard, c'est que cette fois-ci, Baron Corbin était peut-être moins alcoolisé que la semaine dernière.
Peut-être que c'est ça la raison, je sais pas.
Qu'on a eu un match, un match serré finalement entre le baron et les côtiers.
Ouais,
très limite, c'est presque Baron Corbin qui a eu le plus d'offensive dans ce match. Ils ont plutôt rendu coup pour coup entre les deux. Ça s'enchaîne et puis à la fin, la victoire de Drew McIntyre, suite notamment à une distraction d'un ninja qui n'est plus un ninja, Akira Tozawa, qui est revenu pour jouer les moustiques, les moucherons. Il a d'ailleurs volé le chapeau de JBL, et ça, c'est pas cool. McIntyre en a profité pour faire placer son Claymore Kick sur le pauvre Baron Corbin, qui était quand même pas si loin que ça de gagner et de faire l'upset, là, mon beau Juscal.
Ouais, là... Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. En fait, moi, je réclame juste un petit peu de cohérence d'une semaine à l'autre. C'est tout ce que je demande. Si la semaine dernière n'avait pas existé, j'ai aucun problème avec ce qui vient de se passer. Hein. Bon, allez, peut-être 4-5 minutes de moins, parce que bon, faut peut-être pas non plus, se toucher la nouille. 17 minutes de catch entre Corbin et McIntyre, c'est peut-être un peu long. Mais toujours est-il que j'ai absolument aucun souci à voir Baron Corbin titiller Drew McIntyre entre les cordes. Je trouve que, c'est cohérent. Baron Corbin qui revient un petit peu sur le devant de la scène, qui a une association avec un nouveau manager, qui est super motivé, qui s'est retrouvé un petit peu une nouvelle raison d'être et tout, let's go. Et puis Drew McIntyre qui lui a la tête ailleurs et très complètement porté sur les wargames, donc qui peut faire preuve d'inattention sur certains trucs et tout, donc ça fait un match accroché. C'est pas du tout incohérent, sauf que le problème c'est qu'on nous raconte ça très bien, mais la semaine dernière on avait Baron Corbin qui se faisait complètement avoir comme un bleu par Akira Tozawa, et limite qui a failli perdre contre Akira Tozawa dans un tout petit match et tout, qui avait aucun intérêt. Donc c'est voilà, j'ai pas de soucis, ça permettait de meubler dans un go-home show, de donner une victoire à McIntyre. Encore une fois, je pense que ça aurait pu être un peu plus court et peut-être un peu plus décisif, mais en tout cas, ça permet d'occuper un des participants du Wargame, tout en donnant un peu d'exposition à un heal de la mid-card de Raw pour la suite. Mais voilà, ce qui me gonfle, c'est que d'une semaine à l'autre, on a l'impression que presque on est passé dans un monde parallèle où Baron Corbin s'est catché et est une menace crédible, alors que la semaine dernière, c'était... Le clown du clown de la low-card qui a failli se faire avoir comme un bleu. Donc...
Ouais, bah ouais, mais moi je pense que ça, c'est l'alcool.
Vrai que j'avais pas pensé.
Il a bu du mauvais whisky, en plus, c'est un bourbon dégueulasse.
Ouais, un bourbon du Texas, je sais plus quoi, là, horrible.
Non, c'était vraiment. Donc voilà, là cette fois-ci, il est arrivé sobre, concentré, face à un Drew McIntyre un peu rigolard, en vacances. Les choses c'était pas pareil. Ouais, c'est vrai que bon, il faut faire attention à ces petites choses-là quand même. Il faut qu'il y ait une logique interne dans cet univers de la WWE et qu'on arrête de prendre Juscal pour un con.
Voilà. Je vous demande pas grand-chose. Je sais que bon, c'est facile, ça fait plaisir à tout le monde, mais bon. Mais s'il vous plaît.
Alors, on revient un petit peu en arrière, un peu plus tôt. On a eu un match entre l'Alpha Academy et Elias qui portait un t-shirt Ezekiel, donc c'était un petit peu compliqué. Et Matt Riddle, un match, bon voilà, on a déjà fait suffisamment de tous les compliments qu'on peut faire face à ces athlètes surentraînés qui nous offrent chaque semaine des matchs hyper compétitifs. Et bien, une fois de plus, c'était un super match. À la fin, Gable qui fait son petit headbutt là, sur Elias. Mais Riddle vient arrêter le bordel. Otis qui balance Riddle en bas du ring. Gable qui va prendre le tag. Elias qui bloque Otis avec une grosse boot là, dans la tronche. Riddle qui fait le tag dans le dos, qui place Gable après lui avoir balancé une série de strikes assez impressionnant. Moi, j'adore les coups de Riddle, quand ils font des coups de genoux notamment, les coups de genoux dans la tête, là, dans le menton. Toujours visuellement et impressionnant. Riddle qui évite la German Suplex, qui place donc ce fameux coup de genou dont je vous ai parlé. Le slam, le floating bro. 1, 2, 3, avec en plus le petit détail qui fait plaisir pendant ce temps, Elias qui bloquait Otis pour l'empêcher d'entrer et de casser. Et ça, là, voilà, ça, on aime. Ça, on aime l'intelligence. Voilà, l'intelligence dont... Là, on tu t'es senti respecté, là, Giscal.
Là, bah, ils m'ont complètement respecté. Non, bah, c'était sympa, c'était cool, ce petit match. Enfin, ce petit match, ouais. Ce gros match, hein, c'était un beau match. Hein, c'est un gros quart d'heure, je crois. Hein. Mais ouais, bon, écoute, c'était le seul... enfin, peut-être avec... avec Miz Omos Gargano, même si ça c'était quand même dans la continuité d'un match qui est booké pour après le pay-per-view. Mais là, c'était le seul vrai petit segment, on va dire, 100% hors sujet de, par rapport au Survivor Series Wargames. Hein, personne n'est impliqué de près ou de loin dans le PLE. Mais bon, j'en prends pas offense parce que toutes les affiches du PLE ont été adressées, on va dire, lors de ce weekly. Donc, il y a un moment, il faut bien remplir l'émission. Donc, voilà, c'était très clairement un match de remplissage, mais un joli match de remplissage. Toujours un plaisir de voir la Alpha Academy catcher en équipe. Super. Toujours pas très convaincu, moi. Enfin, personnellement, ils me font ni chaud ni froid, l'association Matt Riddle à l'IAS. Et pareil, ce Matt Riddle qui est retourné fumer. Enfin, c'est... fumer la moquette là tranquillement et qui s'est vidé de toute substance combative. mais toujours utile que voilà, bon petit match de milieu de show, très sympa pour faire le café dans ce go home show. Donc je dis ok.
Ouais, je dis ok aussi parce que c'est toujours la garantie assurée d'avoir un bon petit match, un peu de rigolade. Et puis ça roule tout seul. Tu as raison, personne n'est concerné par le pay-per-view qui arrive, mais ils ont quand même du temps d'antenne, qui c'est bien la preuve qu'ils délivrent la marchandise. Hein, sinon, on ne les verrait pas aussi souvent, aussi longtemps.
Ça, c'est sûr.
On continue. Direction... la division féminine, je crois.
Ouais, on n'a pas le choix. Il y a un moment, il va falloir en parler.
Je vais essayer de voir d'éviter, là. J'essaie de cligner des yeux pour pouvoir le voir. Bon, entre-temps, il y a eu un petit peu de bagarre entre Zee aussi et Judgment Day backstage. D'ailleurs, c'était pas mal. C'était une bonne petite baston qui s'est retrouvée sur le parking avec les caméras de sécurité, t'as vu, hein, qui filment et tout. Justement, ouais,
ça
c'est
a
marrant. À ce moment-là, j'étais en train de me dire, ouais, ça me fait penser, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de séquence hors arène, tu sais, où ça se balance dans la rivière, dans le Mississippi, ou alors toi, qu'il se passe des choses, quoi, ça reste backstage. Ouais. Longtemps qu'on a pas eu de baston dans le parking.
C'est vrai, on a bien vu, et ça m'a fait marrer sur le segment, il y avait le gros camion de la production WWE avec, il y avait les têtes de, bah, il y avait la tête de John Cena, de Booker T, de Lita, et je sais plus ce que c'était que l'autre, je me demande si c'était pas l'Undertaker, un truc comme ça. Enfin, du coup, que des catcheurs actifs, hein, des...
Les camions, voilà, ils sont pas repeints tous les jours.
Les camions, ils sont bloqués aux années 2000, là. Mais ouais.
C'est des camions attitude era, tu sais.
Ouais, c'est ça, exactement. Moi, ça m'a fait marrer. J'ai vu le camion, j'ai dit, tiens, c'est drôle. Autant ils mettent à jour plein de trucs, mais ça, non, ils ont pas. Ils se baladent dans tout le pays avec ça.
Voilà, c'est une petite séquence sympa. Allez, division féminine. Alors, Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss sont sur le ring. Bianca Belair, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ouais, voilà. Elle est en bisbille avec Bailey. Ce week-end, cette histoire va se terminer. À War Games, la guerre sera enfin terminée entre les deux. Et puis elle en place une avec ses copines, là, avec qui elle est très contente d'être, Alexa Bliss, Michin. Asuka, c'est pas possible. Elle était même pas là en plus. Michin, elle s'était fait détruire juste avant pendant la séquence backstage sur le parking. N'importe quoi. Donc elles sont super, tellement copines qu'elles sont allées l'aider, toi. Non, mais...
Oui, c'est vrai, ça. C'est intéressant aussi, ça.
C'est très intéressant. Hein, voilà. Bailey, d'ailleurs, qui débarque. Enfin, il y a d'abord Alexa Bliss qui en place une à Nikki Cross, qu'elle veut l'envoyer à la poubelle. D'ailleurs, je me dis, elle s'est loupée, elle aurait pu dire à côté de la poubelle, toi, histoire de faire un
ça aurait été encore mieux, ça.
Bah ouais, je dis, putain, t'as eu une réplique, t'aurais pu un peu la travailler. Ouais. Et bon, on sent pas grand monde de motivé, hein, excuse-moi, dans cette équipe. Donc, Asuka dit Wargames, nobody's ready for Wargames, nobody's ready for Asuka. Excuse-moi, hein, mais franchement, on est. J'ai du mal, tu dis.
Je suis en admiration devant le fait que tu arrives à raconter des trucs là-dessus. Mais vas-y.
Et en plus, elles nous disent que c'est à SmackDown qu'elles vont aller chercher leur cinquième membre de l'équipe. Donc,
Je me suis dit, c'est bien vous ici là.
C'est ça. Enfin, côté babyface, souvent tu donnes quelque chose aux spectateurs qui sont là. C'est plus un truc de rien. De dire ouais, la semaine prochaine à SmackDown parce que là ils sont plus cool. Là, donc en fait, elles sont venues pour rien du tout les filles quoi. Enfin, juste pour nous rappeler que elles sont, il y a pas de motivation.
Ouais, elles sont là quoi.
Ouais, ouais, elles sont juste là. Leur corps est là, mais alors leur âme a disparu quelque part, aspirée. D'ailleurs, Damage Control qui débarque, il y a déjà un peu plus de niaque, un peu plus de présence, un peu plus de charisme, j'aurais tendance à dire, à Bailey qui tu ne trouveras jamais personne de toute façon, personne ne te respecte. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que tu voyais Alexa Bliss qui faisait un peu la moue à ce moment-là. Tout le monde cherche un vrai leader, elle est un vrai leader, est-ce qu'il y a, ferme là. Et puis tout le monde s'ambiance un petit peu, notamment Rhea Ripley et Asuka. On se souvient que Rhea Ripley avait battu Asuka à WrestleMania, elle compte bien refaire la même chose ce soir dans un match, en plus personne n'est aux abords du ring je crois, hein, c'était ça ouais, c'était n'importe quoi, les filles étaient retournées, alors excuse-moi mais peut-être que c'était à cause de la stipulation, parce qu'il y avait une stipulation,
oui. Oui, c'était pas un match pour rien quand même, attention,
pour donner l'avantage,
numérique.
Ouais, à War Games, c'est l'avantage de qui rentre en premier, hein, c'est bien ça.
C'est ça, exactement, exactement.
Pendant les matchs War Games, qui rentre en premier.
Je sais plus exactement ce que c'est la règle, hein, mais ils rentrent chacun leur tour, sauf qu'il y en a bien un qui commence, donc il y a un moment où il va y avoir un 2 contre 1 dans la cage, et donc c'est pour jouer ça, si j'ai bien compris.
Ouais, bah c'est ça. D'ailleurs, Giscard, je crois que c'était la même chose pour le match. C'est pas la même chose pour le match tag team avec qui a eu en intro. Enfin, les Brawling Brutes versus...
Je ne crois pas, non. Ah bah non, de toute façon, c'était contre le Judgment Day, donc non. Mais,
oui.
Non.
Ah oui, je raconte des conneries, moi. N'importe quoi.
Je pense que là, tu nages en plein délire, là.
C'est faux, monsieur. excuse-moi. Je raconte n'importe quoi, j'essaie de pimenter a posteriori l'épisode. Et puis, bah, c'est Rhea Ripley qui a gagné, hein, à la fin du combat. Voilà. Asuka, elle met son armbar sur Rhea Ripley. J'ai résumé. Je sais que tu aimes mon play-by-play, donc en voici un bon. Le armbar sur Rhea Ripley, qui la jarte, et puis Ripley qui place son Riptide pour le compte 2-3, 1-2-3 à l'ancienne. Et le grand n'importe quoi, c'est que les équipes étaient reparties déjà chacune dans leur coin à regarder le match sur la télé. Finalement, pour revenir aux abords du ring, et puis attaquer bon. Asuka, et puis Belair qui débarque, et puis c'est la grosse baston, Asuka qui saute en crossbody, c'est le bordel, les officiels débarquent, et puis on nous présente la carte des Survivor Series, et puis ça se termine comme ça, et j'ai trouvé que c'était un petit peu chelou cette fin en fait. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de momentum, et quand ça se termine, je suis ah ouais, d'accord, tu vois ? C'est bizarre.
Ah ouais, c'est le problème. Hein.
Je trouvais ça manquait un peu de folie, en fait. Mais peut-être parce que c'est tout simplement, je mords pas à ce match.
Ouais, je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin que ça, en effet. Hein, parce que, d'une certaine manière, je peux pas leur reprocher grand-chose cette semaine, puisque c'est la suite logique, on va dire, de ce qu'ils ont écrit jusqu'ici. C'est juste que comme c'est très peu enthousiasmant, bah, fatalement, tout nous paraît très fade. Hein. C'est vrai que... après, ils ont pas... abuser, on va dire, de leur place dans la carte. Pour une fois, on va dire que le main event se justifiait pour les femmes cette semaine. Il y avait, c'était le seul vrai match, hein, ce lundi lors du Go Home Show, qui avait un réel enjeu, hein, parce que voilà, il y avait des implications très concrètes pour samedi. C'est qui va avoir l'avantage numérique. Donc, OK, va pour le main event. C'est juste que fatalement, bon, bah ouais, match féminin dans le main event de 16 minutes. C'est pas forcément ce qui enflamme plus les foules, et le Judgment Day Brawling Brutes d'intro avait beaucoup plus les atours d'un gros main event qui tape fort de Go Home Show pour laisser une belle impression pour finir. C'est sûr que là c'est tout de suite plus délicat. Après c'était écoute, ils ont teasé le bordel, les forces en présence. Maintenant le sujet, c'est qu'on n'en a rien à foutre, et ça fait depuis un moment, donc c'est pas nouveau de cette semaine. Et puis il y a maintenant, c'est vrai que ce trou dans l'équipe des gentils, cette cinquième place qui reste toujours à pourvoir, et qui donc va peut-être être communiquée à SmackDown, donc c'est vrai que ça a enlevé encore plus d'intérêt cette semaine à ce qui aurait pu se passer. Et puis c'est surtout que j'ai quand même le sentiment que petit à petit, plus on arrive vers le PLE, et plus je me dis... En fait, c'est même scénaristiquement, ils sont en train de se booker dans une impasse, parce que déjà que ce match n'a pas grand intérêt, les équipes n'ont quasiment aucune véritable motivation à se retrouver dans une stipulation aussi violente que les Wargames. Hein. C'est vrai que tout ça sonne très faux quand même, parce que c'est une histoire qui dure depuis beaucoup trop longtemps, qui n'a pas assez de momentum. Les îles ont été défaites beaucoup trop de fois. Et puis bah, les Face n'ont presque quasiment rien à y gagner, puisque c'est, voilà, cette histoire est un petit peu plate. Et donc on se retrouve avec finalement presque pour seul intérêt que cette cinquième place, cette révélation qui va d'une certaine manière, c'est pour ça que je dis qu'ils sont un peu dans une impasse, c'est qu'en fait... Tout le suspense, presque tout l'intérêt du match va résider dans cette annonce qui va être fatalement soit très surprenante, soit très décevante en fait. Il va pas y avoir de juste milieu. Maintenant ils sont allés trop loin là, ils sont trop proches du pay-per-view. Soit on va avoir une catcheuse très random et alors là aucun intérêt. Ou alors il y a un retour, il y a une surprise, il y a un coup de folie. Et donc ce coup de folie, il aura les défauts de ses qualités, qui sera que ça va complètement phagocyter le match, qui n'aura plus aucun autre intérêt que celui de mettre en avant la revenante. Et donc on sera encore plus en droit de se dire, après trois mois interminables de ces histoires damage control babyface, de se dire ok, donc en fait tout ça pour avoir fait revenir Machine. Voilà.
Machine,
oui tu restes. Donc voilà, tout ça, on se dirige vers, quoi qu'il arrive, soit un accident industriel samedi, soit le showcase d'un grand retour et une stipulation qui aura été poussée juste pour faire comme les mecs, parce qu'il faut faire comme les mecs et ça n'ira pas plus loin. Et donc voilà, c'est pas très enthousiasmant.
Non, c'est pas très enthousiasmant et comme tu l'as dit, on va arriver à SmackDown avec... Ce seul petit suspense.
Ils
peuvent
même pas nous le dire en plus à SmackDown, hein. C'est... Ils peuvent milquer. J'ai dit, ils sont capables de ne pas annoncer ça à SmackDown. Hein. Ça peut être
oui, c'est-à-dire qu'elles ont donné rendez-vous à SmackDown, mais moi je me suis dit, ça sera... ils vont garder ça pour le PLE, tu vois.
Ça va être l'histoire de SmackDown vendredi, c'est qu'elles vont être en quête de leur cinquième. Peut-être que la cinquième, je sais pas. Il va y avoir Raquel qui va se faire tabasser, Aliyah qui va se faire tabasser, j'en sais rien, enfin tout ce qu'ils ont de menu fretin à SmackDown à nous proposer. Et puis au final, ils n'auront pas de cinquième et ça va être le grand doute. Aïe aïe aïe, oulala, qui va être la cinquième? On a tous envie de savoir. Et pour ça, il va falloir regarder les Survivor Series.
Ouais, mais moi, c'est ce que je ferais. Vendredi, voilà, tu fais ça. En fait, il n'y a personne. Puis même jusqu'au dernier moment, le match commence à 4 contre 5, tu sais. Et puis vraiment au tout dernier moment.
Ah ouais, petite ambiance Elimination Chamber.
Ouais, où le cinquième ne vient pas.
Il ne vient pas tout de suite et tout. Ouais, c'est ça.
Et puis finalement, si, voilà. Il ne nous reste plus que ça, bon, Giscal.
Il ne reste plus que ça, de toute façon. Qu'est-ce que je te dis ?
Autant faire ça. Bon, c'est comme ça que c'est terminé ce show en Albanie. Enfin, à Albanie, pas en Albanie. C'est à Albanie, dans l'état de New York. À ne pas confondre, ne vous trompez pas quand vous bookez vos tickets. Vous ne trompez pas de destination. C'est comme ça que se termine ce show rouge du 21 novembre. Je vous rappelle que, et je te rappelle à toi aussi, Giscal, que c'était le Go Home Show. Alors, ce Go Home Show, est-ce qu'il a réussi à t'ambiancer pour cette belle carte qui se profile au Survivor Series War Games? Top, flop et note. Le verdict, c'est maintenant.
C'est maintenant. Eh bien, écoute, malgré toutes les petits griefs que j'ai pu apporter et tout ça, eh bien, écoute, la réponse est oui. J'ai été plutôt bien ambiancé par ce show. J'ai pour habitude, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai pour habitude, c'est vrai, de noter les Go Home Show vraiment pour ce qu'ils sont, à savoir des Go Home Show qui n'ont pas le même rôle que les autres émissions qui sont là pour booker les histoires, développer, proposer des rebondissements et tout. Le Go Home Show, c'est un show par définition hein, qui est bien safe, qui est là pour nous emmener vers le PLE, pour finaliser, peaufiner les petites histoires, mettre un petit peu de hype. J'ai trouvé qu'en ce sens-là, c'était plutôt un bon Go Home Show, c'est-à-dire que tous les matchs de la carte ont été correctement adressés. Les filles, il y a eu un petit développement scénaristique avec l'enjeu pour l'avantage numérique. Ziggy et AJ Styles, Finn Balor, il y a eu des développements, il y a eu du gros bazar. Les mecs, ils ont eu bon coup de projecteur aussi cette semaine en intro d'émission et un petit peu plus loin après en fil rouge. Donc c'était Seth Rollins, Bobby Lashley, Austin Theory aussi. Bon Go Home Show auquel je mettrais la note de 3,75. J'ai trouvé que c'était de mémoire récente, j'ai trouvé que c'était un des Go Home Show les plus efficaces que j'ai vu. Je dis pas que je ressors de là méga hypé, mais en tout cas, je sais ce que je regarde samedi. Je sais pourquoi j'étais là. C'était et ça me fait plaisir. Après mon flop, bah ça va. On va aller piocher dans les petits trucs qui m'ont énervé et je vais m'arrêter quand même sur le traitement de l'inconsistance du traitement de Baron Corbin qui m'a agacé cette semaine. Quand bien même il a fait un super match, qu'on est toujours heureux de voir le Baron batailler contre le haut de l'affiche et être impressionnant. C'est plus un coup de gueule plus au booker qui j'aime pas être pris pour un con. Attention. Hein. Donc ça m'agace de le voir une semaine être balancé par Akira Tozawa et l'autre semaine être nez à nez avec un des top guys de la fédération. Vous foutez pas de la gueule du monde s'il vous plaît. Donc choisissez votre camp avec Baron Corbin. Et puis bah mon top, je vais le donner à la promo de Kevin Owens, laquelle j'ai déjà pas mal parlé. J'ai trouvé que même si toute l'intro du show a été vraiment super, j'ai trouvé cette promo en particulier m'a laissé une très belle impression. Je l'ai trouvée intelligente et j'ai envie d'y voir pas mal de petits signaux comme quoi le storytelling et le build du match War Games va peut-être être un petit peu plus surprenant et un petit peu plus intéressant que ce vers quoi on pouvait peut-être se diriger. Donc j'ai trouvé cette promo sympa. Et j'ai encore, je me laisse aller à un peu de fantasy booking, mais j'ai presque encore envie de croire que cette promo pouvait être aussi un peu annonciatrice que est-ce que c'est vraiment Kevin Owens qui sera le cinquième de l'équipe et est-ce qu'il va vraiment catcher samedi, je sais pas. C'est vrai que moi j'avais toujours dans un petit coin de ma tête, à partir du moment où ils ont dit qu'il était blessé, parce que il s'était quand même fait un sacré truc au genou, je crois, hein, en house show. Il avait été écarté des rings pendant un petit moment et d'ailleurs sa participation était remise.
Mais il a plus de genou, hein, il a plus de genou.
Il a plus de genou. Et c'est vrai que j'ai encore dans un petit coin de ma tête le scénario qui serait que. Ce petit name dropping de Sami Zayn, comme quoi il s'en fout, c'est pas son sujet, c'est pas son intérêt du moment, son intérêt c'est le titre et tout. Je verrais bien ça, ça pique au vif un Sami Zayn qui pourquoi pas entamerait, enfin à SmackDown ferait une sorte de beatdown absolument terrible sur Kevin Owens ou même peut-être en début de pay-per-view, ce qui poserait les bases d'une feud entre les deux derrière qu'on connaît, hein, mais qui mettrait une hit de dingue sur Sami Zayn, qui bookerait la suite, pourquoi pas, et le retour d'un Kevin Owens Furax, si jamais il n'était pas remis à 100%, hein, et qui ouvrirait la porte, pourquoi pas, à un autre cinquième homme. Mais là, j'ai pas forcément d'idée sur le cinquième, hein, mais je sais pas, c'est quelque chose que je vois encore possible, donc je le pose là, et puis on verra bien.
Vous en faites ce que vous en voulez. Écoute, je trouve ça super. Comme tout ce que tu écris, Giscard, j'adore. Hein, j'adore. Tu es un scénariste de talent totalement incompris. Évidemment.
Pas le problème, ouais.
Mais oui, ce serait super cool parce qu'il va bien falloir la lancer, cette rivalité entre Sami Zayn et Keo. Et c'est vrai qu'en plus, tu l'as dit, hein, Keo avait été super blessé. C'est assez étonnant, là, ce retour. Oui, à part avoir placé un stunner, là, on n'a pas vu faire grand-chose depuis ce soir. C'est pas impossible, ce serait plutôt malin,
ça peut même être le début du face turn de Sami Zayn, hein, parce qu'il peut aussi participer de loin au beatdown et de pas du tout...
Ah oui, moi je vois bien plutôt les Ouzo et compagnie s'en charger, toi.
Ils s'en chargent, tu le vois derrière, il regarde, il fait « Non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais je deviens fou, pourquoi je suis avec eux et tout ?»
Je verrais plus ça, effectivement, que vraiment Sami Zayn qui... Donc, bah écoute, une bonne raison de regarder le show bleu, mon bon Giscard, tout simplement. Hein, beaucoup de mystères encore, beaucoup de scénarios possibles, d'embranchements et de branchements, de multiverse dans l'esprit de Giscard. Écoute, tu as donné ton flop, ton top et ta note. Écoute, de mon côté, mon flop, je vais le donner aux filles, tout simplement, aux filles, à la division féminine, notamment cette promo, en fait. Plus particulièrement la promo de Bianca Belair,
ouais, c'est un peu
qui bizarre. Était vide et triste et t'y crois pas et y a pas le feu et presque t'as l'impression qu'elle était gênée en fait, qu'elle y croyait pas elle-même, toi, d'avoir parce qu'elle a quand même Asuka à gauche, Alexa Bliss, c'est des vétérans et qui se mettent en retrait par en fait elles sont Elles sont en retrait depuis le début, et du coup, alors que là, c'est le moment d'être tous, faire front, toi, ensemble. Et t'as l'impression que t'as arrivais pas, comme si t'arrives pas à motiver tes troupes, toi, et que t'es là un peu gêné parce que tu sens que le syndrome de l'imposteur, tu sais, comme on en parle. Voilà, le syndrome de l'imposteur. T'as l'impression que c'est ça qui ressortait. Alors, bon, c'est un petit peu compliqué. Mon top, bon, bah, comme tu l'as donné déjà au début, moi. Je vais le donner à Homos qui nous a offert voilà, son top 3.
C'est son premier top, ça, je pense.
J'en profite. Tu sais que moi, j'aime bien donner des tops quand j'en ai l'occasion à des mecs que je me dis, je suis pas sûr d'avoir l'occasion. J'avais donné un top une fois à Virman, j'ai bien fait, toi. Parce que... Après, peut-être que ça portait à poids.
C'est
jinxé, le mec.
Oui, peut-être, oui, c'est vrai.
Mais globalement, c'était franchement un super épisode, et en particulier, comme tu l'as dit, un excellent Gomcho qui a rempli toutes les cases, parce que ça a adressé tous les matchs. En plus, on a eu ce petit triple frite là qui était. J'aime bien ça aussi quand ils arrivent à nous booker un dernier match comme ça, tu sais, au Gomcho, mais qui tombe sous le sens, toi. Tu fais, ah bah oui, évidemment, qu'il y a une triple frite entre les trois. Tu vois, c'est pas un match qui est booké depuis des semaines, mais qui arrive, qui est une conclusion naturelle à tout ce qui s'est passé avant. Et du coup, c'est super. Enfin voilà, ça rajoute un petit peu de matière et d'intérêt à ces épisodes qui sont pas voilà, qui sont censés nous ambiancer, quoi, nous mettre un peu dedans, et qui sont censés, voilà, on est censé regarder du catch au lieu de regarder du foot ce week-end. Donc il va falloir nous motiver, hein. Oh, on peut pas voilà, Team Giroud ou Team Kevin Owens, il faut choisir.
Il va falloir choisir, pas simple, hein.
Ouais. Pas simple. Il y en a un qui marque des buts, l'autre on sait pas trop quelles sont ses intentions. Alors je sais pas. Le Canada, ils sont qualifiés, ils jouent
bien
là.
Bien sûr.
Canada. Ah oui,
ils ont joué hier soir.
Oui, ils ont joué hier soir. Ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont perdu, malheureusement, contre la
Belgique. Ah bah, raison de plus pour être énervé. Ok, Kevin Owens. Écoute, et puis moi ma note, je vais donner un 3,5. Comme toi, j'ai trouvé que c'était un super Gomcho et qui a rempli sa mission. Et nous aussi, on a rempli notre mission, Giscal, avec cette analyse. Yeah. Demandez Nitro, le show rouge, c'est bouclé. Vous pouvez nous retrouver évidemment toutes les semaines, c'est gratuit, comme Ringside nous le rappelle à chaque fois, sur toutes les bonnes plateformes habituelles de podcast, mais également sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de ce Gomcho. Est-ce que vous êtes ambiancé pour ce pay-per-view? Bientôt, les pronos, le centre de pronostics sera réouvert pour venir nous chercher. Tout simplement, vous avez là à l'antenne, dans vos cages à miel, les deux champions qui vous chuchotent à l'oreille. Eh oui. Le champion du peuple, venez nous chercher, on vous attend de pied ferme. Survivor Series, d'ailleurs, par exemple, typiquement, le match de Seth Rollins, ils seront 3, il vaudra 3 points. Il vaudra beaucoup de points.
Oui.
À toi. Et ouais, ouais. Donc, commencez à cogiter là-dessus.
Il faudra bien écouter ce qu'on a raconté, voilà, inspirez-vous, imprégnez-vous.
C'est pas faute de donner quand même des dés, on aide la couée, voilà, on vous aide. On pourrait faire les salopards et puis
vous ouvre la porte de nos cerveaux féconds toutes les semaines, gratos.
Les réseaux sociaux, pardon, c'est Catchup CD, c'est Twitter, Facebook et Instagram. Le lien vers notre Discord est toujours dans la description. Je te remercie, Giscal, d'avoir ouvert les portes de ton cerveau fécond.
Oui. Mais n'écoutez
pas modeste,
tout ce que
je modeste, dis. Modeste. Ouais. Bah, ça fait 6 ans qu'on est modeste à Catchup. 6 ans, vous rendez compte?
Ah, je peux vous dire, heureusement que c'est gratuit. Hein. Ouais. Ah bah merci beaucoup à toi.
Il en vendrait des formations, sinon il pourrait en vendre, hein, des formations.
Oh là là, j'en vendrais, je me ferais attaquer dans la foulée, ouais, pour charlatanisme. Et...
voleur.
Voilà, rends l'argent. Ah, merci beaucoup Yerem de m'avoir ouvert les portes du studio, parce que je vois que tu veux pas me redonner un double des clés, donc c'est quand même. Hein,
je préfère que bien, quand tu sonnes. Voilà.
Ouais, je préfère m'ouvrir quand je sonne. J'ai bien noté, hein.
Allez, on vous donne rendez-vous très bientôt pour l'analyse de SmackDown et du pay-per-view. C'est quand le pay-per-view? C'est samedi ou dimanche?
Bon, c'est vrai que je dis samedi parce que maintenant j'ai l'impression que c'est tout le temps samedi, mais oui, c'est samedi. C'est samedi.
Partez du principe que c'est samedi, comme ça, au pire, vous ne le loupez pas.
Vous ne le faites pas voir. Hein. Voilà. Non, mais c'est samedi à Boston, au TD Garden. Ouais. Et okay.
Est-ce qu'on aura le temps de faire l'analyse de SmackDown? Mon prono, c'est non.
On peut jouer sur la cote, savoir si on peut la mettre dans les pronos, justement. Savoir.
Ah oui. Ouais,
parce que l'analyse de SmackDown sortira avant samedi 16h. C'est
pas... Le tiebreaker. Allez, on vous souhaite évidemment d'ici là, à toutes et à tous, une bonne semaine pleine de catch. Salut.
Et ciao tout le monde. cette fois. Je note que tu ne m'as pas affiché à l'antenne pour dire que j'allais faire le montage, donc du coup, tu l'as dans le cul.
Dans le cul, vraiment.